Bien, je suis sociologue et j'ai mené des recherches sur le monde enseignant et sur la transmission des savoirs. Les deux thématiques évidemment se rejoignant, puisque dès le début de mes recherches sur ces questions-là, j'ai pensé qu'on pouvait travailler sur le métier enseignant qu'à partir du moment où on s'intéressait à ce que font les enseignants, c'est-à-dire à l'enseignement. Ça paraît un peu bébête de dire ça, mais je ne crois pas que ça l'est tant que ça en sociologie, puisque le partage des tâches universitaires ou des places entre les disciplines aidant, la sociologie s'interdit beaucoup, enfin c'est beaucoup d'interdits de parler des questions de transmission, d'enseignement, d'apprentissage, etc. Donc moi, dès le début de mes recherches sur mon enseignant, j'ai voulu adopter cette perspective, l'évolution du monde enseignant, les pratiques d'enseignement et la transmission des savoirs sont les trois thématiques que j'ai essayé de traiter ces dernières années. Alors, il s'est trouvé, pour des raisons que pas forcément en fait importantes ou intéressantes, que en ce qui concerne les pratiques enseignantes, j'ai travaillé sur les profs de SES, d'abord par facilité, puisque je me disais que c'était a priori la discipline où j'étais censé comprendre à peu près ce qui se passait en classe. Donc ça a été mon premier point d'argument, j'ai mené une recherche sur l'entrée dans le métier enseignant des profs de SES, en regardant notamment comment se stabilisait un répertoire de pratiques enseignantes. Donc c'est de ça, hein, exclusivement de ça dont je vais parler, pendant le temps qui m'est donné. Donc des pratiques des enseignants de SES, je ferai quelques observations, quelques constats, disons, sur les observations que j'ai pu faire en classe. Bon, c'est toujours difficile à l'oral, hein, ça passe mieux à l'écrit quand même, quand on a observé des enseignants et qu'on a retranscrit l'ensemble des interactions. J'ai un texte, je ne sais pas, qui est apparu dans une revue qui s'appelle Sociologie du Travail, qui s'appelle Observer et comprendre les pratiques enseignantes, qui porte exclusivement sur les profs de SES. Donc c'est ce que je vais dire est pour une part, disons, beaucoup plus développé dans ce texte et sera développé dans un ouvrage à paraître aux éditions Industries dans la même collection que celle de Stéphane Bonnet, que je co-dirige. Voilà. Donc, mon propos, je le scindrai en deux parties. Une première partie pour faire donc un certain nombre de constats sur ce que j'ai pu observer dans les pratiques d'enseignement en SES. Et une deuxième partie, il m'a semblé que c'était ça la commande qui m'a été faite par Gérard et Gisèle, qui était de réfléchir sur ce que ces constats peuvent apporter à la réflexion, disons, sur les pratiques d'enseignement et sur l'enseignement, sur le métier enseignant au sens large. Alors, bon, moi, mon étude des pratiques enseignantes en SES, mais dans d'autres disciplines, j'aurais fonctionné de la même façon. Je pars du principe que toute pratique enseignante consiste d'abord à prendre en charge des prescriptions d'un dispositif de scolarisation. Un enseignant du primaire comme du secondaire, c'est loin d'à l'université, n'invente pas au jour le jour son dispositif pédagogique, il est enserré dans quelque chose que je me propose d'appeler un dispositif de scolarisation, c'est-à-dire des instructions officielles, vous le savez bien sûr, un horaire, un niveau dans le système éducatif, donc un avant, un après, des dispositifs pédagogiques, que sont les manuels, etc. Donc c'est moi, quand j'ai observé les pratiques d'enseignants, j'ai d'abord essayé de regarder quelles étaient les caractéristiques de ce dispositif de scolarisation, et j'ai essayé de voir comment se débrouillaient des nouveaux enseignants qui prenaient des classes, qui avaient 1, 2 ou 3 ans d'ancienneté, comment ils se débrouillaient avec ce dispositif de scolarisation, ce qu'ils en faisaient. Alors, je ne vais pas entrer dans l'ensemble, hein, ça prendrait bien trop de temps. Je vais me centrer sur deux points. Il m'a semblé, quand j'ai fait cette recherche, hein, il y a quelques années, que les nouveaux enseignants étaient confrontés à deux prescriptions, ou en tout cas deux prescriptions fortes. Premièrement, l'idée que l'enseignement des SES doit se faire à partir d'un cours, alors bon, je ne vais pas entrer dans les débats de terminologie, mais enfin d'un cours qui n'est pas un cours magistral, voilà, je vais définir par la négative. Donc ça, c'est la première prescription que j'ai essayé de regarder. Bon, j'ai essayé de regarder les effets, enfin, comment ça se traduisait en classe. Deuxième idée, l'idée que l'enseignement des SES est basé sur des savoirs qui permettent d'éclairer des questions, disons, socialement ambiguës ou à enjeux sociaux forts, et non pas un enseignement à visée très pratique ou complètement technicisé. Donc, c'est le deuxième élément. Il y en a d'autres, évidemment. Hein. Enfin, c'est ces deux éléments-là qui m'a paru intéressant de regarder ce que les enseignants en faisaient en classe, les nouveaux enseignants de SES. Alors, de mes observations qui sont étalées sur presque 3 ans, je vais tirer quatre constats. Bon, premier constat, il faut bien commencer par là, les réponses apportées sur ces deux points sont variées, voire très variées. Et donc, première conclusion, ces deux principes doivent être considérés comme des injonctions et non pas comme des réponses, à mon avis, comme parfois on peut le croire quand on commence à enseigner, comme des réponses à des problèmes ou comme des schémas établis pour une pratique en classe. Ça veut dire, tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire du cours magistral pur et frontal et violent et que sais-je, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit comment il fallait faire, quoi. On a dit il faut faire, on n'a pas un schéma préétabli, ce qui, à mon avis, explique bien entendu que les réponses apportées sont précisément variées, et il faut évidemment explorer cette variation, essayer de la synthétiser. Voilà mon premier constat. Le deuxième constat, du point de vue des contenus, hein, des réponses apportées par les enseignants, j'ai essayé de typifier, ou en tout cas d'essayer de saisir les réponses un peu idéales typiques sur ces deux points, tels que j'ai pu les observer. Donc je vais vous donner quelques éléments. Là, vraiment, je pense que c'est un peu délicat. Je vois que Stéphane me fait très très bien, plus d'expérience que moi, je pense, pour dans les interventions. Non, mais je sais le nombre d'interventions que tu as faire sur mon cas. Non, je me rends compte que c'est peut-être bien d'utiliser le tableau. Bon, moi, je vais essayer de le faire comme ça. Ça risque d'être un peu aride, quoi. Donc, si je me permets, je m'en excuse, mais je me permets de vous diriger vers mon texte, hein, où c'est un peu plus détaillé, ou en tout cas on voit tout précisément ce que je veux dire. Donc sur le cours délégué, premièrement, tout le monde est d'accord, hein, sur l'idée qu'un bon cours est un cours où il n'y a pas qu'une personne qui parle, c'est-à-dire l'enseignant, et où on entend les mouches voler. Bon, ceci étant dit, comment faire, hein? Alors, en plus, j'ai un peu corsé mon observation, je me suis intéressé aux classes les plus faibles qu'avaient les enseignants, hein, parce que j'ai voulu voir comment ces deux principes-là pouvaient être traduits dans des classes, celles qui, dans leur service, étaient les classes où il y avait un niveau scolaire, disons, le plus faible, hein, sur l'ensemble de leur service. Alors, je pense qu'il y a quand même deux façons idéatypiques de traduire cette injonction au cours dialogué, disons, qui sont très, très différentes. Peut-être pas en apparence, mais au fond, sont très différentes. Une première que j'ai appelée l'activisme langagier. Si on prend au pied de la lettre l'idée qu'un cours, un bon cours, est un cours où on dialogue, effectivement, certaines pratiques tendent à valoriser la parole en elle-même. La parole des élèves, j'entends, hein, bon, pas la parole de l'enseignant. Donc ce sont des pratiques où on observe une grande liberté dans la prise des paroles des élèves, hein, où l'important, c'est que ça parle. Ça comme ça. Donc, une prise de parole qui est très sollicitée, qui est très favorisée, qui est assez libre, et qui a quand même pour effet, me semble-t-il, j'en donne quelques exemples, de produire un échange, ou un cours, c'est pas un cours, mais en tout cas un échange très, très haché, quoi, dans la classe. C'est-à-dire que les réponses des élèves sont très souvent des réponses de courte portée, c'est-à-dire de quelques mots. Les idées sont rarement entièrement développées par un élève, mais plutôt par une succession d'élèves à qui on demande à qui prennent la parole. Quoi. Le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot. Voilà. Donc c'est une première façon de, enfin, peut-être que j'ai pu l'observer, hein, de mettre en place, de répondre à cette injonction du cours dialogué. Voilà. La deuxième manière idéatique, qui paraît radicalement à l'opposé, je l'ai appelée une forme de mise en activité intellectuelle, c'est une parole des élèves qui est beaucoup plus contrôlée par l'enseignant, qui est sollicitée, qui est valorisée aussi, bien entendu, mais qui est beaucoup plus contrôlée, et surtout contrôlée dans sa forme. C'est-à-dire que les réponses sont des réponses qui sont peut-être moins spontanées, mais avec un travail, une exigence de reformulation, une exigence sur la forme de la réponse, un refus des réponses un peu, je n'ai pas l'exemple en tête, mais enfin, où on répond par un seul mot, mais des réponses plus élaborées, plus longues. Et dans ce cas, je pense que le cours qui est dialogué lui aussi, puisqu'évidemment il y a circulation de la parole dans la classe, est un cours où la parole de l'élève n'est plus visée en tant que telle, mais visée en tant qu'elle permet soit d'exprimer une idée élaborée, soit de vérifier le degré réel de compréhension par l'élève interrogé. Voilà, évidemment, je suis un peu rapidement, hein, excusez. Une polarisation assez nette de ce point de vue-là. Alors, sur le deuxième point, le deuxième aspect, sur la question des contenus, je me suis intéressé donc à la circulation des savoirs en classe, et très vite, il m'est apparu que quand un curriculum comme celui des SES est construit sur des questions à fort enjeu politique et sociaux, très vite, et qu'en plus, d'ailleurs, la parole des élèves est sollicité, ou en tout cas, oui, est sollicité. Il y a quand même plusieurs types de savoirs qui circulent dans l'interaction scolaire. J'en ai identifié trois grands registres. Hein, bon, on peut discuter des catégories, mais il y a des savoirs proprement scolaires au sens des savoirs qui ont été scolarisés, qui ont été apprêtés pour l'école, qui ont été mis dans un programme et dans des manuels. Il y a des savoirs que je dirais plus politiques, qui sont assez proches, mais qui sont un peu différents. Hein. Ce sont des savoirs élaborés, ce sont aussi des savoirs qui sont plus proches de la forme écrite, mais qui sont moins directement encadrés par une forme scolaire. Et enfin, des savoirs qu'on peut qualifier d'expérience, hein, l'expérience de tout un chacun, de tout individu, a évidemment une expérience propre sur les grandes questions qui nous agitent tous. Donc ces trois types de savoirs circulent en classe. Et en observant, je me suis vite rendu compte que dans les classes faibles, justement, si le niveau scolaire était en moyenne le moins bon, ces trois registres avaient tendance à s'enchevêtrer. Ouais, c'était difficile parfois de les serrer ou de les isoler un peu précisément. Et notamment dans des moments particuliers qui sont tout à fait intéressants à observer. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à observer ces moments-là, qui sont des moments où surgit en classe un débat social. Enfin, un débat social. Un débat qui prend une tournure de débat social, donc ça peut tout à fait être un débat à l'origine, proprement, sur les policiers, sur les savoirs scolaires, mais ce moment dans l'interaction où souvent, hein, alors que c'est pas prévu d'ailleurs, hein, des questions fortes émergent et un débat s'installe. J'ai en tête, hein, je crois que je dois prendre dans ce papier, mais sinon je le reprends forcément dans l'ouvrage, j'ai en tête un débat extrêmement dur entre deux élèves. Le cours porte sur les conditions de travail, c'est un cours quel niveau, et je crois que c'est beaucoup de textes. Et à un moment, deux élèves se mettent à s'écharper, hein, d'abord tous les deux, puis après, clairement, ils entraînent tout le reste de la classe, autour de qui a les conditions de travail les plus difficiles, entre la mère d'une des élèves qui est ouvrière, ouvrière à la chaîne, je crois, et le père d'un autre élève qui est, alors bon, j'ai un peu creusé un peu la question, qui est en fait vert, hein, qui est... Alors, il le présente comme, je ne sais plus comment il dit, cadre commercial, quoi. Alors, chacun amenant des arguments, évidemment, à la fois très, très percutants, mais très personnels, quoi, autour de « mais enfin, ta mère, elle n'a pas à réfléchir, elle est à sa chaîne, alors que moi, mon père, s'il ne fait pas son chiffre à la fin de la semaine, il n'a pas son salaire, il n'a pas de fixe, etc. etc. » Et puis, la fille qui rétorquait « oui, mais enfin, moi, ma mère, elle aura des problèmes de dos, de vue, à 60 ans, etc. » Bon, un débat extrêmement violent, hein, extrêmement dur socialement, et on comprend évidemment, d'autant qu'il engage personnellement les élèves, dont il faut bien que l'enseignant se dépatouille. Quoi. Une fois qu'il est lancé, il faut bien en faire quelque chose. Donc c'est ce type, et on le voit dans toutes les classes, hein, le cas le plus typique, c'est quand même le débat, ça vous le savez, le débat le plus courant, c'est savoir si les rémises sont des faiblesses ou pas. Enfin, en tout cas, moi, quand j'avais observé, c'était vraiment le débat que quasiment tous les enseignants que j'ai observés ont été confrontés à ce débat-là, à un moment ou à un autre. Donc, j'ai essayé de regarder comment, dans ces moments-là, ben, les enseignants essayaient justement de gérer ce débat social et puis de voir ce qu'ils en faisaient. Et là encore, j'ai vu des postures et des atypiques qui sont radicalement opposées, me semble-t-il, entre d'un côté, pris en quelque sorte par l'urgence du débat et par ça, et par son caractère assez dur, une tendance à l'euphémisation de la symétrie des savoirs, quoi, au fond, effectivement, à quelque chose qui est, au fond, chacun sa vérité. La mienne, bon, l'enseignant est quand même plutôt considéré comme le dépositaire du savoir scolaire, la mienne qui est celle du savoir scolaire, mais la vôtre aussi, qui est celle de votre expérience. Donc, ce que j'ai appelé quand même, ce que j'appelle comme une forme de valorisation des savoirs sociaux, l'asymétrie, quand je dis asymétrie, c'est pas asymétrie en termes de dignité, bien entendu, mais c'est asymétrie, puisque dans la scène où qui est en train de se dérouler, c'est dans une interaction scolaire, ce qu'on vise, évidemment, ce sont l'acquisition, la maîtrise des savoirs scolaires, hein, faire comprendre aux élèves qu'on a le droit de se poser la question de savoir si les rémistes sont des chômeurs, sont des feignasses, mais pas de cette manière-là. Il faut se poser en parlant, en discutant la question des travaux et d'activité, etc., etc., etc. Voilà, faire comprendre qu'une question peut être saisie à différents niveaux de savoir, de réflexion, et que c'est en classe, en tout cas, le niveau des savoirs scolaires, c'est celui-là qui est l'exigence, bien entendu. Donc une première posture qui tend à ne pas, enfin en tout cas atténuer la symétrie entre les différents jets de savoir, et puis une posture qui, au contraire, pas simple à mettre en œuvre, qui vise à sortir des débats sociaux en ramenant justement sur les savoirs. Quoi. Et j'ai en tête, pour donner, sans m'empêtrer dans mon discours, sur ce débat sur les conditions de travail, je me souviens très bien, j'avais trouvé ça absolument lumineux d'ailleurs, l'enseignante avait rebondi sur les questions d'espérance de vie, sur les milieux sociaux, etc., etc. Donc sur l'idée que la pénibilité au travail pouvait se saisir à différents niveaux, que la pénibilité d'une charge mentale, d'une charge physique, que ce n'était pas la même chose, bien entendu, et donc qu'on le savait toujours avec des contenus de savoir, il y avait différents types de pénibilité au travail, bien entendu, mais que malgré tout, l'un des indicateurs objectifs qui permet d'objectiver la pénibilité au travail, c'est celui de l'espérance de vie, et qu'on peut la calculer sur les milieux sociaux, et voilà, une manière, disons, de non pas de trancher, puisque on peut évidemment respecter ce qu'ils disaient, mais en tout cas de ramener le débat sur un niveau des savoirs scolaires ou des savoirs, disons, plus scripturaux. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième élément. Hein. Ces injonctions, pour résumer, ces injonctions, ces deux pratiques, elles se traduisent de manière assez radicalement différente en classe, hein, peut-être qu'on peut les observer. Mon troisième point, troisième constat, les comportements enseignants sur ces deux registres, et sur d'autres aussi, que je n'ai pas distingués, sont nettement polarisés, c'est-à-dire que, ça c'est une question qui m'a beaucoup occupé, puisque j'en avais beaucoup débattu, notamment avec quelques collègues d'école, j'étais radicalement en désaccord avec eux là-dessus, Jean-Yves Rochex, je ne sais plus ce qu'il dit maintenant, mais à l'époque, me disant qu'au fond, on peut difficilement typifier les comportements en classe, puisque chaque enseignant se comporte différemment selon le moment de la journée, la classe qu'il a, etc., etc. Bon, je suis parti un peu sur cette question-là. Est-ce que ces figures idéatypiques, est-ce qu'elles se ramènent à des enseignants? Est-ce qu'un enseignant a tendance à constamment faire comme ça et pas comme ça, etc., etc. Bon, moi, il me semble, hein, j'essaie de le montrer, mais ça... Il faut un peu de la place, disons. Je pense que les comportements sont polarisés, effectivement, tendanciellement. Hein, c'est une polarisation, c'est pas la typologie au sens le plus strict du terme. Les enseignants ont tendance, face au débat social, à se comporter plutôt comme cela, ou plutôt d'une autre manière, telle que je l'ai décrite. Donc, tendanciellement, je pense qu'on peut ranger les comportements enseignants en classe d'une façon ou d'une autre de pratiquer. C'est de traduire, disons, ces injonctions en classe. Donc ça, c'est le troisième constat. Quatrième constat, à mon avis, le plus important pour la suite, pour la discussion, comme il y a 10 minutes, c'est cette polarisation des pratiques, et ça, je l'ai revérifié sur d'autres terrains, sur d'autres disciplines, et avec d'autres méthodes, y compris avec des méthodes quantitatives, ne recoupe pas les autres clivages évidents du monde enseignant. Ça, c'est vraiment une idée, moi, qui me paraît très importante. Alors, les autres clivages du type posture pédagogique déclarée, conception éthico-politique du métier, du système éducatif. De mon point de vue, il est clair qu'il y a une... Alors, je ne vais pas dire une disjonction radicale, mais en tout cas, on ne peut pas faire découler les pratiques et les comportements enseignants en classe, les pratiques au sens le plus... Comment font les collègues en classe, de postures... pédagogico-politique déclaré. Je crois même que c'est assez radicalement, non pas en... quasiment en indépendance, on parlait, quasiment en indépendance. Ou plutôt que les médiations sont complexes. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rabattre l'un sur l'autre. Alors ça m'est apparu très clairement, hein, sur le petit échantillon tout petit de prof de SES. J'ai essayé évidemment de poursuivre cette investigation, de poursuivre cette question en traitant une enquête, une très belle enquête d'ailleurs, Elisabeth Chapet, qui fait cette recherche avec Jean-Yves sur le métier enseignant en 96, une enquête quantitative qui avait été tirée de ça. Une très belle enquête parce que c'est une enquête qui permet, qui pose des questions, ce que pose jamais le ministère, à la fois sur les, y compris l'appartenance politique syndicale, et qui arrive à descendre à des niveaux, je trouve très fins pour les enquêtes quantitatives, des pratiques en classe, quoi. Alors évidemment, ça ne sera jamais une observation des pratiques, bien entendu, mais en tout cas, on arrive à saisir dans ce questionnaire, et je l'ai traité assez longuement, on arrive à saisir des indicateurs de la manière de prendre les questions en classe. Et on a évidemment toutes les médiations entre les deux, quoi. C'est-à-dire les positions face à la massification, les positions face à l'innovation pédagogique, ou que sais-je. Et quand on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit quand même hein, de la... Alors tous les niveaux les plus politiques, éthico-pédagogiques, ceux-là sont très évidemment corrélés, ramassés entre eux, bien entendu. Ça, je ne sais pas, excuse de dire que les enseignants les plus marqués à gauche sont ceux qui... défendre le principe de massification scolaire et sur ceux qui sont plutôt du côté de la mobilisation professionnelle sur la difficulté scolaire. Je veux dire ça paraît un peu évident, mais c'est vrai, c'est vérifié. Par contre, je crois qu'il y a une disjonction avec les façons de prendre en charge la difficulté scolaire en classe. Ça, encore une fois, je l'ai observé dans ces questionnaires, je l'ai observé aussi très nettement, de manière tout à fait alors, radicalement différente, de manière ethnographique, avec les profs de l'SNS. Alors pourquoi, je ne vais pas le détailler parce que je n'ai pas le temps là, mais il me semble qu'au fait, chacun de ces niveaux a ses propres registres de détermination, et c'est ça qu'il faut essayer de démêler, et comme ils n'ont pas le même registre de détermination, c'est logique qu'on ne retrouve pas une polarisation parfaite, telle que la sociologie d'ailleurs l'a beaucoup pratiquée dans les années 70-80, quoi, hein, le sport de la typologie enseignante était très très développé, donc chacun sortait sa typologie la plus intégrée possible, quoi. Ça veut dire qu'on avait quatre grands types sur l'être enseignant au sens le plus intégré possible. Ça, je suis complètement, assez radicalement en désaccord avec ces conclusions. Voilà, donc ça, c'est les quatre éléments que je voulais tirer de mes observations et pratiques en classe. Alors, deuxième point, ou conclusion plutôt, quel enseignement en tirer, quelle réflexion? Alors, moi je propose deux remarques. La première, assez évidente comme conclusion, il y a bien une prise en charge par les enseignants du dispositif de scolarisation des SES. Cette prise en charge, et là je fais une hypothèse, mais bon, en ayant beaucoup lu les travaux notamment des SCOL, je crois que l'hypothèse est vérifiée, on peut faire l'hypothèse qu'elle n'est pas neutre du point de vue de l'apprentissage, que ces différents postures, ou en tout cas ces différents pratiques, idées atypiques telles que j'ai pu les observer, ont des effets, je pense, sur structure apprenante, c'est pas la structure à raconter, je crois que c'est pas du tout neutre, y compris sur la définition des tâches, sur ce qu'on demande en classe, sur le type de rapport au savoir ou de rapport aux apprentissages que ça instaure chez les élèves. Je crois qu'il y a vraiment un niveau là qu'il faut évidemment pas du tout couper, hein, de celui des contenus et des dispositifs de scolarisation lui-même, hein, mais qui a sa propre réalité. Et ma deuxième remarque, c'est que ce niveau des pratiques d'enseignement, et je crois, et je suis très content de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui, c'est un niveau de débat et d'analyse qui est assez complexe. Alors complexe pour plusieurs raisons. Il y a quand même pas de transparence hein, dans les pratiques. Alors évidemment, la réflexivité est difficile dans les gestes du travail d'enseignant. On sait que c'est le cas dans le monde du travail dans l'ensemble. Mais je crois quand même que le métier enseignant a deux spécificités, en tout cas en ce moment, c'est d'une part la solitude du travailleur quand même, qui alors certes en face de lui il y a des élèves, mais qui n'a pas de collègues qui le regarde faire, bon, en tout cas ça arrive, mais c'est extrêmement rare, c'est dans des cas très très particuliers, c'est pas la situation la plus courante. Donc cette solitude du travailleur, hein, je crois qu'elle est vraiment importante, il faut partir de là pour bien comprendre que justement les gestes du travail sont difficiles c'est difficile d'avoir une réflexivité dessus, hein. Je crois que c'est assez net. Et deuxièmement, et ça j'en reviens un petit peu à ce que disait Stéphane, les enseignants doivent gérer quotidiennement l'instabilité du régime de scolarisation actuel, hein, tel qu'il s'est ouvert depuis les années 60. C'est quand même une ouverture certes, mais sans permettre à l'écrasante majorité des élèves au moins d'entrer correctement dans les apprentissages. Et donc une difficulté aux apprentissages qui récurrente, qui doit être gérée dans l'interaction. et qui rend, à mon avis, l'interaction scolaire extrêmement complexe à gérer, à appréhender, hein, qui renforce, encore une fois, cette difficulté de réflexivité. Et enfin, deuxième point, je crois que c'est un niveau de débat, et là je me situe à un niveau plus large, qui est complètement phagocyté par les autres niveaux. Quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, et là, je prendrai pour exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais moi je trouve que ce qui s'est passé sur le débat sur la lecture, par exemple, illustre parfaitement le niveau de la pratique, le niveau de la pratique du métier, c'est un niveau qui est complètement phagocyté par celui des postures professionnelles, du débat sur la massification, des identités éthico-pédagogiques, qui ont tendance quand même, je trouve, à poser, non pas des chapes de plomb, mais qui ont tendance à ne pas faciliter le débat, la réflexivité dans le monde enseignant, d'abord, et plus largement aussi, hein, dans les organisations progressistes, disons, qui n'a tendance à ne pas aider à cette réflexivité, à ne pas aider à poser les questions les plus fortes, je pense, hein, c'est nécessairement celle de ce qui se passe en classe. Et moi, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me... Là, non pas seulement en tant que sociologue, mais en tant que citoyen, disons, qui me pose question et que je trouve assez délicat, puisque, bon, les autres niveaux de débat sont intéressants en soi, et bien entendu, et j'ai une opinion sur qu'est-ce que doit être le métier enseignant, sur les doctrines pédagogiques diverses et variées, sur quelle doit être la forme système éducatif, tout ça, c'est des questions fortes. Mais on m'enlèvera pas de l'idée que l'instabilité du régime de scolarisation, elle se construit aussi, enfin, en tout cas le point nodal, c'est ce qui se passe en classe, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le niveau de débat qui est souvent caviardé, ou en tout cas qui est souvent, qui fait le frais des autres, quoi. Hein, comme si une fois qu'on a dit qu'on était un enseignant mobilisé, on a tout dit. Bien entendu que c'est très bien de commencer à mobiliser, mais mobiliser sur quoi? Mobiliser comment? Mobiliser en faisant quoi en classe? Ça, je crois qu'il y a un continent qui s'ouvre là et qu'il faut effectivement, et urgemment, je crois, prendre en charge. Alors, quand je dis prendre en charge, c'est les associations professionnelles, c'est le meilleur lieu, mais les associations professionnelles, c'est le sens large, avec les chercheurs aussi. Je crois que s'il n'est pas pris en charge par le milieu, il sera pris en charge par d'autres. Notamment par la hiérarchie du ministère, et je ne suis pas sûr que le monde éducatif ait beaucoup à y gagner. Voilà. Oui. Parle prudemment.
Voilà. Il faudrait éviter l'injonction rapide qui évite de penser, ou parce qu'on n'a pas assez pensé sur la question.
Moi, je crois que c'est la grosse question qui est posée dans une discipline particulière aussi. Je ne crois pas que les SES soient l'endroit où ce soit le moins posé. Hein. Je pense qu'il y a d'autres disciplines où c'est beaucoup plus saillant, ce que je dis, mais enfin, quand même, je crois que vraiment c'est une question importante et d'autres la régleront à notre place. Quoi, hein. Oui, non, mais bien sûr, hein, non, je ne dis pas ça pour passer la brosse, hein, mais c'est. Bon, moi j'aime bien travailler sur le primaire, je suis assez sidéré quand même, de l'absence totale de débat réel. Sur un certain nombre de questions fondamentales dans l'apprentissage. Voilà.
Merci Jérôme. Je suis très contente de t'entendre dire ça, parce que je vais parler dans ce sens aussi. En même temps, bon, j'en profite pour souligner quelques aspects de ce que tu as dit, parce que ça m'apparaît quand même aussi. Notamment quand tu dis finalement je suis en désaccord, donc voilà, j'essaye par mes questions de donner plus de relief aux résultats que Jérôme avance de ses recherches. Quand tu dis je suis tout à fait en désaccord avec des typologies d'enseignants, j'ai en tête un travail qui a fait beaucoup, qui a beaucoup formé certains d'entre nous en sciences de l'éducation, qui est le travail de Viviane Zander-Jandati sur la réussite au baccalauréat. Et comme vous ne savez peut-être pas, c'est un travail qui est particulièrement intéressant parce qu'il va à l'encontre de quantité d'autres travaux qui se sont développés sur la question de l'efficacité à l'école, et au lieu de procéder comme le font la plupart des travaux qu'on appelle processus produit, en faisant un test à l'entrée, un test à la sortie, Ensuite, je mets tout ça dans la boîte à modèle, et je mets des scores, et puis je mets des variables, ce qui est tout à fait faisable, évidemment, et qui apporte aussi des résultats, et je démontre qu'il y a un effet maître, il y a un effet ceci, un effet cela, en catégorisant mes variables avec un modèle. Vous voyez à peu près le type de travail. Viviane Isambert-Jamati, elle a fait un travail de longue durée d'enquête. Alors, auprès des enseignants, il s'agissait des enseignants innovateurs de l'INRP en français, et elle a pris comme, vous comprenez pourquoi ça m'intéresse, elle a pris comme indicateur de performance des élèves leur note au baccalauréat en français. Et elle a essayé d'établir des mises en relation entre ces notes et ce que les enseignants disaient avoir fait et les positions éthico-politiques et idéologiques qu'ils avaient vis-à-vis de l'école. Elle aboutit à un certain nombre de résultats qui ont beaucoup marqué, qui ont été très intéressants parce qu'ils ont mis, disons, en question, je dirais, les pédagogies libertaires. Voilà. Alors, bon, je vais simplement, dans la discussion avec Jérôme, souligner le fait que son propos va un peu mettre un coin dans cette tradition en disant est-ce que c'est la typologie des enseignants. Voilà, deuxième chose sur ce que tu dis, il y a une différence entre une typologie.
Dans ma mémoire, la typologie de Viviane n'était pas sur les enseignants, mais sur les pratiques.
Oui, sur les enseignants aussi, et sur les pratiques et sur les résultats. C'est-à-dire qu'elle a fait 4, 5 grands groupes de formes de pédagogie et elle a essayé de regarder si ça réussissait et à qui ça réussissait. Les enfants issus des catégories favorisées, les enfants issus des catégories défavorisées. Donc elle va considérer que les pédagogies, par exemple, libertaires, qui laissent beaucoup la parole aux élèves, réussissent bien aux enfants de catégories moyennes et supérieures, mais aussi à des enfants de catégories défavorisées dans certaines circonstances. Enfin, il faut rentrer dans le texte lui-même, je ne l'ai pas complètement en tête. Bon, voilà. La deuxième chose que je voulais dire au sujet de ce que Jérôme vient de dire, c'est qu'il y a une différence, je pense que c'est ça, juste malgré tout, entre typologie des enseignants et typologie des situations. Et je suppose que la discussion avec Jean-Yves, je n'étais pas là, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai fait des choses qui ressemblent un peu dans comment évaluer l'éducation, notamment quand j'exploite le travail d'une certaine personne que j'appelle Viviane D. Bon, on y reviendra. pour montrer cette diversité des façons de répondre aux injonctions et surtout de se dépatouiller par rapport au débat qui commence à émerger de toutes parts dans une classe. Ma position était qu'on peut faire des typologies de situations. Et alors, par situation, il faudrait aussi conceptualiser et assister, mais par situation, on entendra à la fois l'enseignant et ses positions idéologiques, politiques, etc., sa maîtrise du savoir, etc., mais aussi les élèves. Et donc le type de lycée, le type de catégorie sociale, le type de classe, etc. Et à ce moment-là, peut-être que dans certaines situations, j'essayais un enseignant qui est placé dans tel lycée, placé dans un autre lycée, dans une autre situation, le même enseignant aurait dépatouillé la situation autrement. L'enseignant n'est pas seul dans la classe. Et ce qui se passe, c'est une sorte de cristallisation. Enfin, voilà, et ça c'est les questions des pratiques. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je trouve que illustrer cette fois ce que Stéphane a dit en introduction sur le topo au sujet des sciences de l'éducation, enfin plutôt au sujet de la situation de l'éducation, qui a dit pas mal, nous avons été refusés par un épisode. Bon, il faut comprendre qu'on est actuellement en effet dans des comment se développe la recherche en sciences de l'éducation en France? Il s'agit d'un tout petit milieu qui essaye de s'organiser, qui essaye de se donner des procédures de discussion, mais qui, malgré ses efforts pour le faire, je dirais, n'y arrive pas. Enfin, non, enfin, bon, moi j'ai une certaine déconvenue quand même au bout d'un certain nombre d'années. Par exemple, la procédure des appels d'offres du ministère, ça paraît être une procédure objective. vivantes, qui permettent même à l'ébat, il y a des experts, etc. Mais en pratique, qui sont les experts qu'on va chercher? Eh bien, concernant telle ou telle recherche, on va chercher la personne à côté. Et la personne à côté qui va être experte pour expertiser la recherche du collègue. Mais si elle est trop à côté, il y a conflit d'intérêt. Donc la personne à côté va dire c'est mes potes, je ne peux pas accepter d'être experte pour leur recherche. Et donc on va chercher une personne plus loin. Et les personnes plus loin sont trop loin. Et ils ne comprennent rien, ils ne savent pas, etc. Et donc on est dans des situations comme ça d'un côté, donc au fond, je reviens au propos qui m'intéresse, c'est sur ces questions de pratique. Je crois qu'il faut que la recherche s'en saisisse, mais en même temps, on est avec tellement de sujets et tellement peu de communautés scientifiques, tellement peu de capitalisation de nos recherches. Voilà, on est avec pas assez d'éléments pour faire preuve et pour construire de la connaissance. Enfin, voilà, c'est ce que je me sens.
Voilà, Jérôme, il y avait. Je crois que j'étais détruit tout à l'heure. Sur le texte du grand-mère Jabati, je me permets de faire un peu plus. Et on l'a publié dans un ouvrage qui s'appelle Les sociologues, l'école et la transmission des savoirs.
Toujours à la même collection.
À la même collection. Et c'est un texte absolument remarquable, mais justement, je suis absolument d'accord avec Guillaume Jabati. Elle montre que, quand je disais, on ne peut pas faire typologie, mais je disais les typologies très intégrées. Il fait quatre grands types à la louche des enseignants, hein, le pédago machin, etc., sans observer les pratiques, et qui s'en tiennent à ça. Ce que montre Isomère Jabati, c'est qu'on peut typifier les comportements enseignants, et ça je suis d'accord parce que je le fais aussi, mais que c'est plus complexe si on regarde les autres niveaux. Si tu regardes les types, elle en a 6 ou 7, j'ai beaucoup travaillé ça puisque je l'introduis dans le bouquin, tu vois que si tu prends par exemple une opposition gauche-droite, tu t'aperçois que si ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'entre le libertaire et le marxisant et l'autre, c'est pas du tout les mêmes manières de pratiquer en place. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est l'articulation entre les trois niveaux, quand on parle entre les gens, j'en définis 3 ou 4, qui est plus complexe que ce qu'on peut en faire. Hein. Et de ce point de vue-là, parce que souvent l'exemple qu'on donne, c'est souvent ce texte-là, je crois que dans la Jabati, il dit pas autre chose, au fond. Hein. Il y a des manières de pratiquer différentes, mais les médiations entre ces manières de pratiquer et la conception du métier et la conception éthico-politique, elles sont compliquées, quoi. Et l'enseignant démocratisant, marxisant, je me souviens très bien de ce type-là, à certains points de vue, dans ses pratiques, il est assez proche d'un autre type très élitiste, lycée de centre-ville, je pense à un autre type. Voilà, c'est ça qu'elle montre, quoi. Hein. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit.
Alors, sans couper le débat, mais pour ne pas couper la salle, parce qu'il y a deux, trois petites questions, Michel, vous voulez...
Oui, moi, c'était par rapport à ce que disait Elisabeth, cette sensation, un peu de repli de la communauté scientifique. C'est vrai aussi qu'on a l'impression, enfin, ça ne s'embraye pas du tout sur les classes des profs, hein, c'est ça aussi le souci, quoi. Enfin, moi, nous, on a connu une période où, effectivement, dans les années 60-70, enfin, 70. Quand on a mis en place les sciences économiques et sociales, c'est vrai qu'on l'a fait aussi au nom de théorie pédagogique que tu as qualifié un peu libertaire, avec une prise de Dirac sur politique. Actuellement, bon, c'est absolument impossible. Moi, je sors d'un projet pédagogique, on essaie de changer les choses sur le terrain. Les réactions sont d'une violence terrible. Hein, on ne veut plus entendre parler de sciences de l'éducation. Enfin, dès qu'on parle de l'UFM, enfin, sciences de l'éducation, c'est très violent. Enfin, et c'est vrai d'ailleurs que les critiques viennent de. Moi, je m'attendais à des soutiens dans les typologies classiques des profs de gauche. C'est là qu'elles viennent d'une manière plus vigoureuse. Quoi. Alors, c'est très responsable de ce que je disais, parce que. J'ai mieux compris effectivement pourquoi il n'y avait pas d'appui du tout, c'était tout à fait mélangé. Quoi. Bon, je trouve que bon, ce qu'on fait ici, peut-être, c'est justement, dans le travail de l'AXES, c'est de renouer un peu ce lien entre la recherche et le politique. Quoi. Enfin, bon, maintenant, est-ce qu'on arrivera à le faire? Il y a l'urgence. Hein,
il faut quand même le dire que c'est une goutte d'eau, on avait dit qu'on essaierait de médiatiser, parce que la recherche en éducation d'une façon générale. Et mise à mal, je pense qu'on va être tordu de cou avec la fin des IFM, de façon assez simple, y aura, enfin, Alain, on en parlera peut-être, mais on a quand même plus qu'une inquiétude, c'est-à-dire ne même pas former à minima pour avoir un regard critique sur un certain nombre de textes, de lectures, de pédagogie, de théorie, etc. Ça sera fini. Donc on risque d'aller encore plus loin dans la trappe et donc dans le non-débat et donc dans le refus du débat. De toute façon, il n'y aura plus les éléments pour les faire en salle des profs. Donc, je crains fort qu'on aille vers une situation catastrophique. Donc là, on est à contre-courant, il faut quand même le dire. On est vraiment à contre-courant. Et, voilà.